Comme vous venez de l'entendre, le gouvernement algérien a démenti par deux fois dans la soirée d'hier l'article de notre confrère Le Monde selon lequel l'Algérie offrirait l'asile politique à Saddam Hussein avec l'accord tacite de certaines puissances coalisées. Pourtant, l'article fourmille de détails suggérant qu'il s'agit de beaucoup plus qu'une rumeur et d'autre part, depuis l'aube des temps, ce type de solution est classique lorsque sonne l'heure pour les grands criminels historiques de mettre un terme à leur forfait. Mais elle n'est pas satisfaisante. L'asile politique est fait pour les persécutés et pas pour les persécuteurs. Cet exil permettrait certes de se débarrasser du dictateur irakien, il n'en laisserait pas moins en suspens d'importants problèmes moraux, politiques et juridiques que la communauté internationale ne pourra pas éluder indéfiniment. Elle ne peut pas davantage les régler tantôt par l'indulgence, comme dans l'hypothèse d'un départ de Hussein, tantôt par l'intransigeance, comme dans le cas des chefs nazis ou des chefs communistes d'Europe centrale que leurs concitoyens font depuis 1989 passer en justice. En gros, l'arrangement consisterait pour l'Algérie à héberger le dictateur déchu en échange de la promesse de la part des États qui ont des griefs contre lui de ne pas demander son extradition en vue d'une comparution devant un tribunal international. En somme, des truands de droit commun comme les patrons du cartel de Medellín en Colombie ou une fripouille de quatrième catégorie comme Manuel Noriega, l'ex-dictateur du Panama, doivent être extradés, jugés, condamnés, mais un fléau de beaucoup plus grande envergure, un despote coupable de la perte de centaines de milliers de vies humaines, de la destruction de son pays et d'un pays voisin, un fauteur de guerre qui a plongé la planète entière dans l'angoisse pendant 6 mois et dont on mettra 10 ans à réparer les dévastations, pourrait couler des jours heureux dans un pays ami, comme l'ont fait d'ailleurs en leur temps Amin Dada, le bourreau de l'Ouganda, ou Jean-Bédel Bokassa, le cannibale du Centrafrique. Interrogé sur l'avenir de Saddam Hussein hier soir à Antenne 2, le secrétaire général des Nations Unies a répondu qu'il appartenait au seul peuple irakien de décider du sort de son dirigeant. J'ai beaucoup d'admiration et d'amitié pour M. Pérez de Cuellar, mais je trouve sa plaisanterie plutôt cruelle, comme si le malheureux peuple irakien avait jamais été admis à choisir ses dirigeants. Pour être logique, le secrétaire général aurait dû proposer des élections libres sous contrôle international, et je ne l'ai pas entendu formuler cette proposition. N'est-il pas juste que les despotes qui se sont arrangés pour ne jamais être jugés par leurs concitoyens, qui leur ont refusé le droit de vote et le droit à la parole, comparaissent un jour devant une autre sorte de tribunal? Attention, il ne s'agit pas en l'occurrence de réclamer un procès politique, c'est-à-dire un procès intenté à quelqu'un pour ses opinions, ou à un homme d'État pour la politique qu'il a suivie dans le cadre institutionnel d'un mandat lui ayant été légalement conféré. Il s'agirait, à l'encontre de Saddam Hussein, d'appliquer une législation internationale tout à fait publique et claire. L'Assemblée générale des Nations Unies a défini en 1945 la notion de crimes internationaux. Elle l'a subdivisée en 3 catégories, les crimes contre la paix, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Il est patent que Saddam Hussein a commis les 3, crimes contre la paix, c'est-à-dire violation par la force des frontières d'un État voisin reconnu par le droit international, sans qu'il y ait eu à aucun moment provocation ni menace ou danger pour la sécurité de l'agresseur. L'annexion du Koweït correspond point par point à cette description. Les crimes de guerre consistent à violer les conventions internationales qui tentent de rendre la guerre moins inhumaine, si possible. Sont considérés comme crimes de guerre, par exemple, les mauvais traitements infligés aux prisonniers militaires, à plus forte raison leur exécution, les déportations de populations civiles, à plus forte raison leur assassinat. Il est notoire que Saddam obtient brillamment la note maximale sur tous ses chefs d'accusation. Il ne s'agit pas de sa part de pertes civiles involontaires, conséquences inéluctables d'opérations militaires, il s'agit d'exécutions systématiques de civils koweïtiens perpétrées en tant que telles sur ses instructions. C'est là que nous débouchons sur le crime contre l'humanité, le massacre des non-combattants, le génocide, la torture. Les crimes contre l'humanité peuvent d'ailleurs être commis en temps de paix. L'extermination des Kurdes à l'arme chimique en 1988 par Saddam en fut tout autant un que les atrocités subies par les civils koweïtiens en 1990 et 1991. Il n'est plus possible désormais, dans le cas de ces grands criminels internationaux, et surtout après une telle mobilisation mondiale, de feindre de croire que les fins de carrière de ce genre de tyrans sont uniquement un problème de politique intérieure.